La séquence qui va être très rapide, c'était juste pour vous donner un tout petit peu de background théorique sur d'où. C'est pas beaucoup de théorie, je sais, mais plus historique, on va dire. C'est quoi les origines? Parce que j'ai dit, ouais, mais d'où ça vient cette affaire, gna. Donc, comment on répond à ça? Voilà, ça sort pas d'un chapeau, ça s'inscrit, on va dire, dans le développement des organisations dans une histoire.
Ils ont l'air de s'éclater.
Et ces gens qui s'éclatent, donc ce sont les. C'est de voir et marrer. Donc, on est chez les protestants, notamment chez les Quakers, qui ont été les premiers à inventer cette logique de sociocratie, de décision collective, et pas d'être gouverné par un chef, mais de s'auto-organiser, de s'auto-gouverner. Et donc, ça remonte au 19e siècle, etc. Et je pense qu'on pourrait trouver des racines encore plus anciennes, mais on va partir de là. Et donc.
Les Égyptiens. Donc là,
Voilà.
on est à quel siècle?
On est au 19e siècle et donc au 20e siècle, les Quakers ont continué continué d'ailleurs cette logique. Et vous avez Kees Buck et Charles et Kees Buck, il est en Hollande, et Gérard Edimbourg qui ont développé
En Angleterre.
notamment aux Pays-Bas cette
L'Écosse.
enfin par étape ce qu'on appelle la sociocratie. Donc avec toute l'approche par cercle, l'idée d'équivalence et l'idée que on va décider par consentement versus objection, et donc dans un cercle chacun a la parole, on a distribué la parole et contribué à la décision. En fait, le modèle sociocratique vient de Gérard enfin historiquement de Kees Bock et
On a
Gérard.
pas Auguste Comte aussi
Ouais, c'est encore plus ancien, mais
hein.
c'est je rentre pas là-dedans parce que c'est aussi il est assez critiquable aussi Auguste
D'accord, donc
et
ça qu'on dit
bref
arrête de
et
faire
donc
ton
mais là en
Gérard.
fait derrière c'est la recherche à est-ce qu'on peut inventer un autre modèle où un collectif va fonctionner ensemble? Au passage, les cercles sociocratiques, ça marche jusqu'à 12 personnes, quoi. Prenez une décision par consentement à 50. Donc les cercles, l'idée des cercles commence avec la sociocratie, avec l'idée des cercles, avec l'idée d'inclusion, d'exclusion, le rôle du lead, le double lien, un certain nombre de choses qu'on va retrouver dans l'holacratie existent et sont inventées par la sociocratie, parce on a aussi des cercles avec les sous-cercles, etc. Et on a à chaque fois un lead et un double lien.
C'est le maximum 12 personnes dans un cercle ou tu faisais référence à quoi?
On va retrouver, on va retrouver, ouais, c'est 12 personnes.
Max quoi.
On va retrouver le maximum, en tout cas, c'est recommandé, mais pas de. Les
Fabienne
comptes sont fous,
a
mais
essayé à plus de 20 personnes, ça a été
au-delà,
délicat.
un cercle qui fonctionne à plus de 12. Et d'ailleurs, dans les cercles, on peut avoir plus de rôles, mais les gens ayant plusieurs rôles, on peut avoir. Nous, on recommande pas plus de 12. Moi, je trouve que ça marche bien à 8, par exemple. Moi, j'aime bien 8. Je trouve que 8, c'est top. 10, ça va. 12, c'est déjà pas mal. Au-delà. Et regardez les CODIR, etc., qui fonctionnent à 15, 20. C'est lourd. Ok. Et
Ça
donc,
reste la double pizza
qu'est-ce que je peux vous
oui,
dire
c'est
de
ça.
derrière?
Franchement, c'est
Euh, donc, l'AGA,
ça
c'est
marche pas du
plusieurs
tout.
sources. Hein, on va retrouver bien sûr l'holacratie. La sociocratie. On a aussi un truc qui s'appelle la sociocratie 3.0, qui existe. Qui arrive après, postérieure à l'holacratie, qui est très intéressante aussi comme modèle. Tout ce qui est agilité, l'approche intégrale qui parle de holarchie, qui va parler des niveaux logiques, des niveaux de complexité, bref, entreprise libérée. Ce qu'on trouve sur la systémique, le développement des organisations. Bref, il y a pas mal de sources dans tout ça. Et ce n'est pas un truc qu'on a inventé, on va dire c'est juste incrémentalement une évolution d'autres approches qui sont mixées entre elles. Je veux vraiment rendre à César là. Et c'est pour répondre à cette grande question de faire la transition d'un modèle classique à un modèle agile, dans lequel la métaphore du premier, c'est la machine. Le but, c'est de la prédictibilité. Je produis un résultat. Je veux un résultat parfait et prévisible et prédictible. Là où, dans le cercle, cette modalité agile, on va chercher plutôt à s'adapter et créer de la valeur et être pertinent pour un contexte et une évolution. Pas du tout le même but et donc pas du tout les mêmes modes de fonctionnement. Et l'AGA finalement permet cette transition, cette transformation, donne une méthode pour faire cette évolution. Et où la métaphore devient non plus une machine, mais un organisme vivant, dynamique, évolutif. Voilà. Ok, on s'en fout. La différence avec l'holacratie, si jamais on vous demande, il y a une slide, on essaie de. Et donc l'holacratie ne fonctionne pas dans une organisation hiérarchique alors que l'AGA s'intègre à une organisation hiérarchique. L'holacratie, il faut dire, faut arrêter tout. Et on refait une holacratie, il n'y a que ça, mais on ne reconnaît pas la hiérarchie. C'est compliqué parce que dans une entreprise, y a un contexte pour ne pas faire fi de tout ce qui est là. Légalement, d'ailleurs, vous pouvez pas, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'holacratie n'a pas trop pris, à mon avis. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait évoluer, qu'ils, maintenant, on va dire, je parle de l'holacratie V1, enfin, le départage, maintenant, ils l'ont fait évoluer, donc cette slide a 2, 3, enfin, peut-être 4 ans, donc l'année dernière, ils l'ont fait évoluer, donc j'avoue que là, il faudrait faire une update, mais bon. L'holacratie, c'est que les gens la comprennent, je dirais, au sens large. C'est une constitution, donc c'est pas négociable et c'est pas adaptable, on va dire. Là, c'est un corpus. On répond pas. D'ailleurs, si on répond pas à tout, on n'est pas l'holacratie. Et alors qu'on est dans une démarche de changement en GA, c'est plutôt des clés qui donnent une démarche. Voilà, l'holacratie adresse pas la culture, alors que le GA adresse plus les postures, le mindset. On va s'intéresser à ça. On est plus centré sur la méthode d'un côté et de l'autre, on est plus centré sur la pertinence et la réponse aux besoins du client et on va faire de l'accompagnement du changement. Je vais essayer de faire le jeu des différences avec l'holacratie. C'est pour vous, peut-être, ce qu'il faut retenir, c'est d'un côté quelque chose de plus rigide et en même temps qui est bien pensé, qui est très bien construit et qui marche dans certains cas et donc qui s'adresse peut-être à 2-3% des entreprises. Et l'autre qui est beaucoup plus adaptable, plus ouvert et qui est plus une démarche de développement des organisations qu'une méthode. Voilà, même s'il y a des méthodes dedans. Je vais passer là-dessus parce que c'est bon, j'ai envie d'arrêter un peu les trucs théoriques, c'est bon, voilà. Peut-être juste le dernier point que je voulais dire, c'est. On parlait de développement, de maturité. Et je voudrais. Là, c'est Keegan qui parle, qui est un sociologue, psychosociologue. Keegan, je ne sais plus s'il est MIT ou. Et donc il a beaucoup, enfin c'est un scientifique, hein, il a une approche scientifique de développement des organisations et il parle du stade de développement de l'adulte. Et en fait du stade de l'adulte ça doit, on compte, enfin l'idée c'est il dit pas que lui, il y a beaucoup de d'études et de recherches sur ce sujet du développement de l'adulte. On parle de spirale dynamique, peut-être que vous connaissez, si vous avez fait, je pense, l'UDN, ils doivent parler de spirale dynamique. C'est, on a des couleurs dans la spirale dynamique. On va retrouver aussi chez Lalou, les couleurs. On va retrouver l'idée du développement, de la conscience. Là, Keegan est un peu plus mainstream, donc je l'ai mis là, mais on aurait pu mettre la spirale dynamique aussi. Et là, donc l'idée, c'est de dire, en fait, c'est pas seulement un enfant jusqu'à l'adolescence ou l'adulte qui se développe, ça, un adulte se développe aussi. Et donc on va retrouver chez un adulte des stades de développement, c'est vrai à l'échelle individuelle comme c'est vrai à l'échelle collective. Donc ces stades de développement sont des stades de développement de l'adulte, mais aussi d'une organisation. Et même aussi, pourquoi pas, d'un pays, d'un grand collectif, etc. Et c'est grand, je trouve intéressant parce que ça a un lien avec ce qu'on... On aurait pu prendre... Tout à fait pu regarder, c'est très intéressant d'ailleurs de regarder la spirale dynamique, on peut en parler aussi si vous voulez, mais là je trouve intéressant parce que la première étape de ce développement d'adulte, c'est ce qu'on appelle le socialized mind, donc ce moi socialisé, où en fait la personne va chercher pour exister à se conformer. Et donc j'existe parce que je suis reconnu par les autres, pour qui je suis dans le collectif. Et donc je vais chercher à me conformer à vos attentes. Et regardez une entreprise, cette conformisation, l'entreprise est une machine à conformisation. D'ailleurs, les gens se ressemblent un peu à la fin. On a une manière de passer, de parler, on a des titres, il y a tout un truc. On est une espèce de machine sociale de conformer. Voilà. Et l'entreprise attend beaucoup ça. Pour qu'il y ait une culture, pour que les gens soient dans l'histoire et tout. On va chercher à créer ça même. Mais la limite de ce socialized mind, c'est que les personnes, c'est compliqué d'être autonome et de se différencier. Parce qu'être autonome, être en rupture, innover, parce que comme on cherche à se conformer globalement, on ne cherche pas trop à être différent. Et donc, on ne cherche pas trop à être autonome, à prendre des responsabilités. On cherche plutôt à se fondre dans le collectif. Si je simplifie. Et le stade d'après, c'est le self-authoring mind. C'est l'idée où je m'autorise à être autonome, à être différent de vous et d'avoir mes propres objectifs, quitte à ne pas vous plaire. Et d'avoir mes propres quêtes, quitte à être différent de vous, même si vous n'y comprenez pas tout. J'ai mes propres... Et donc, quand on va faire du développement du leadership, c'est ce qu'on va aller chercher. C'est que des gens deviennent des leaders, qu'ils aillent, pas forcément dans le sens du genre, mais qu'ils proposent des choses nouvelles et qu'ils soient capables d'y aller tout seuls. L'autonomisation des personnes. Et c'est un stade de développement qui nécessite plus de maturité que le premier niveau. C'est je m'autonomise, je peux être différent et je quitte à pas plaire et quitte à être seul même. Et le troisième niveau, c'est le niveau self-transforming mind. C'est j'existe, j'ai mon propre fonctionnement, mais j'ai conscience de vous. J'ai conscience de mon environnement, j'ai conscience de nos différences, que vous avez des perspectives, que je n'ai pas toute la vérité et qu'on doit intégrer ces perspectives pour trouver le vrai. Et je suis à l'aise dans cette complexité, je sais naviguer ça. Et si vous voulez, le passage de l'AGA, c'est pour les équipes, si on simplifie quelque part, le passage du moi socialisé à un moi self du 1 au 2, où en fait on va aller demander aux gens de s'autonomiser. Et puis pour les leaders, et pour certains, pour les facilitateurs en particulier, les leaders, ben on a besoin d'avoir des personnes qui sont capables de se transformer, d'être transformées par la perspective des autres, de se laisser toucher, de se laisser transformer par les autres. C'est pour ça qu'on dit self-transforming mind. Et qui sont à la fois autonomes et à la fois ouverts. Et c'est ça, ben, c'est le rôle d'un manager, c'est ça le stade de développement d'un leader et aussi d'un facilitateur, c'est d'être dans ces changements de paradigme. Et c'est pas la même posture. Donc c'est une manière de, je trouve intéressant de parce que ça simplifie, mais en même temps ça pose ce niveau de développement de la maturité. Et derrière finalement, ben, les RAO et ce qu'on fait quand on accompagne ces montées en maturité. C'est un peu ça qu'on fait derrière.
Okay. Et c'est dans ce dernier stade qu'on peut vraiment être dans la coopération, à mon sens.
Pour le deuxième, c'est compliqué, la coopération, parce que je suis dans un moment où moi, ce qui compte, c'est m'autonomiser, c'est d'avoir mes trucs, mes objectifs et machin. Donc, j'ai pas. Ok, je veux bien un peu collaborer, mais j'ai pas trop envie que tu me dises non. Moi, c'est important que je fasse mon truc. C'est un stade de développement. Enfin, c'est pour ça, on n'est pas que dans un stade, on est multiple et on est à la fois dans différents moments. Dans différentes situations, plus ou moins d'endroits, mais le centre de gravité peut être, en tout cas au travail, on va créer les conditions pour aller passer à un stade de maturité. Les silos, c'est un peu le milieu, les patrons des silos, bah, c'est un peu du milieu. Ils sont un peu, j'ai mon objectif, j'ai mon silo, mon truc, non merde, voilà, qu'on vienne pas me dire, je suis dans mon silo. Et donc, bah, c'est un gros changement de paradigme pour eux, parce qu'on leur dit, ouais, il y a ton silo, mais en fait, il n'y a pas que ça, puis il faut intégrer, puis collaborer, etc.
Il a pensé aussi pour la grille de lecture du scientifique, comme ça, vraiment, c'est fait dans les bistrots, il pense le temps plein de concepts comme ça, mais néanmoins, ça vous donne aussi des outils pour voir ce qui se passe en face et pouvoir modéliser un petit peu.
On vous mettra des bouquins aussi dans les références. Bon, c'est quelques. Alors là, vraiment, c'est pas du fait de site. Voilà. Il y a quelques bouquins intéressants. On va aborder, vous avez en bas à gauche la CNV de Rosenberg, que je trouvais essentiel. Après, des choses plus classiques. Théorie U aussi est très important parce que je pense que vous connaissez peut-être aussi, si vous avez fait une institution, vous avez dû, je peux peut-être aborder ça aussi, je ne sais pas. Tout ce travail de presencing, ce qu'on appelle la qualité de présence, être en présence de ce qui se passe.
C'est lequel celui-là ?
C'est le U-Theory, c'est tout le travail d'être collectivement en présence de ce qui est en train de se jouer pour nous. Et d'offrir un espace de présence pour faire émerger un nouveau futur. C'est d'être avec. Cette méthode-là qui est très importante. Bref, mais il y a plein d'autres. Hein. C'est pas exhaustif du tout, mais quelques bons, très bons bouquins de référence dans notre domaine.
Je vous conseille dans les équipes de Stéphane Pincilly, je ne sais plus qui, mais elle fait une conférence sur un OAD d'ailleurs sur. L'inspiration team of teams, du coup, la gouvernance adaptative à cet état d'esprit et cette nécessité issue de team of teams. C'était super intéressant. On a pas mal de matière. Si vous l'avez lu après.
URL a partagé.
Ouais, dans l'OAD, je pourrais vous la retrouver si c'est dans les platas cool. Dans le platas de l'OAD. Il y a deux ans, Alors. Maintenant qu'on a fait tout ça, l'idée c'est d'aller être en face de l'équipe que vous accompagnez. On voulait mettre ça un petit peu en,